Merci David et vous tous. Alors la prononciation correcte en hollandais c'est het kwakkel.
Oh.
Mais il y a une solution pour les francophones. Het c'est Georges en français ou ce qu'on font mes parentés français, la même famille qui sont dans la région de Montargis. Tous les het s'appellent Georges en français. Oh, ouais. Et kwakkel c'est un nom d'oiseau, c'est la caille.
Ah ouais.
Oui, donc pour un prof d'Ancien Testament, c'est un peu délicat parce qu'on risque d'être mangé par les Israélites, mais c'est comme ça. Voilà, le texte que j'ai choisi pour cette prédication, cette méditation d'aujourd'hui, c'est pris de Isaïe 40, les versets 3 jusqu'à 5. Isaïe 40, à partir du verset 3. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel à parler. Je vous invite un petit moment de prière. Seigneur notre Dieu, avant de prêcher ta parole et de l'écouter, nous venons vers toi pour demander ton aide, l'aide de ton esprit. Sois avec nous par ton Saint-Esprit. Illumine nos cœurs. Aide-nous à bien, et moi personnellement bien, prêchez ta parole fidèlement. Aide-nous à écouter et que c'est vraiment ton évangile qui arrive dans nos cœurs et qui renouvelle nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, on peut dire que écouter, l'écoute, c'est ça le noyau, le cœur de tout ce qui se passe ici, dans l'Église. Ici au culte, on chante, on prie, on parle donc. Mais c'est clair que c'est l'écoute de la parole de Dieu qui est le fondement de tout qui se passe ici. Mais pour écouter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle, n'est-ce pas? C'est évident. Il doit y avoir quelqu'un qui fait entendre la parole de Dieu. Et il faut quelqu'un qui le fasse fidèlement. Il faut vraiment que c'est Dieu, que ce soit Dieu qui parle, que ce soit sa parole. Sinon, notre réunion, tout notre culte, perdrait tout son sens. Il s'agit donc de parler et d'écouter. Et on peut voir les mêmes idées dans notre texte d'aujourd'hui. Le texte commence avec une voix. Une voix donc, une voix qui crie. Une voix qui parle. Une voix qu'il faut écouter. Et le texte se termine avec la même idée. La bouche de l'Éternel a parlé. Parlé, bouche de l'Éternel. Mais dans la phrase précédente, il s'agit de voir. La gloire de l'Éternel sera révélée et tout homme, toute chair, à la fois, la verra. Tout le monde verra la révélation de la gloire de Dieu. Il s'agit donc de parole et de l'écoute. Mais il s'agit aussi de voir de nos propres yeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Et comment? Qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on va voir dans l'avenir? Parce que le verbe, c'est dans le futur. Dans la traduction française, l'hébreu, c'est un peu différent. Je ne vais pas expliquer tout ça parce que le temps des verbes en hébreu, c'est très compliqué, mais la traduction par un futur, c'est complètement correct. On verra la gloire de Dieu dans l'avenir. Et donc, avant de pouvoir voir, il faut écouter. Pour savoir ce que nous allons voir dans l'avenir, il faut d'abord écouter aujourd'hui la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce que je me propose, c'est que d'abord d'essayer d'écouter cette parole avec nos propres yeux, comme des vidères, des croyants de l'époque du Nouveau Testament. Oui. Mais d'abord, c'est essayer d'écouter autant que possible avec les oreilles des Israélites, hein, les premières adressées de ce texte. Comment est-ce qu'ils ont entendu cette parole-ci? Comment est-ce qu'ils l'ont compris la première fois dans son contexte historique? On peut aussi le faire de l'autre façon, commencer directement avec le Nouveau Testament, avec l'accomplissement de notre prophétie par l'œuvre de Jean-Baptiste. On l'a lu déjà en Luc 3. C'est aussi une approche qui est très bonne. Pour cette fois-ci, j'ai choisi l'autre démarche, peut-être aussi parce que j'y prouve dans l'Ancien Testament. Je dis tout simplement, je peux vous servir avec mon talent, je ne peux pas vous servir avec le talent que je n'ai pas, ce n'est pas nécessaire non plus. Voilà, donc je commence par ça et on arrivera plus tard à l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, comme c'est révélé dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus et Jean-Baptiste, et aussi, ça va sans dire, le sens du texte pour nous aujourd'hui, dans notre situation ici au 21e siècle. Mais pour bien comprendre, je vais commencer d'abord avec l'auditoire originel. Alors, donc, le prophète s'adresse à un groupe de personnes qui doivent entendre la voix qui crie. Voici la voix qui crie, il faut l'entendre. Et ces gens-là qui doivent entendre, écouter, ce sont des Israélites, ça c'est évident. Parce qu'ils connaissent l'Éternel comme leur propre Dieu. On peut le voir très clairement au verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Donc le prophète s'adresse à des gens qui peuvent dire, l'Éternel, c'est lui, votre Dieu. Notre Dieu, leur Dieu. Et il leur faut apprendre que l'Éternel va consoler Jérusalem. Consoler, consoler mon peuple, parler au cœur de Jérusalem. Et parler au cœur, c'est à peu près la même chose que consoler. Dieu donne l'ordre de consoler Jérusalem et l'auditoire doit le savoir que Dieu donne cet ordre-là. Et ça leur intéresse parce que ils sont des habitants de Jérusalem. Eux-mêmes, ils sont des habitants de Jérusalem. Mais au moment auquel le texte s'adresse, le prophétie s'adresse, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas dans leur propre ville. Et c'est une prophétie d'Isaïe. Il habitait à Jérusalem. Mais cette prophétie, à partir du verset du chapitre 40, s'adresse plutôt aux habitants de Jérusalem de plus tard. De l'époque plus tard, du 6e siècle, l'époque de l'exil. Donc la prophétie, ces paroles d'ici, s'adressent aux habitants de Jérusalem dans leur situation future d'exilés à Babylone. Ils s'adressent donc à des gens qui ont dû quitter leur propre ville et leur pays. Les Babyloniens, au 6e siècle, ont pris la ville de Jérusalem. Ils ont démoli les remparts. Ils ont mis le feu aux maisons de Jérusalem. Ils ont même abattu le temple de Dieu, le sanctuaire. Au 6e siècle, au moment auquel le texte s'adresse, Jérusalem n'est qu'une ruine. Une ruine où personne ne peut habiter ou vivre. Jérusalem est devenue comme un désert. Ici, dans le texte, dans son contexte, une voix qui crie dans le désert. Le désert, je crois que c'est aussi un symbole de la situation de Jérusalem. Parce qu'Ésaïe, le prophète lui-même, il avait annoncé plusieurs fois, au chapitre 27 par exemple, 27 au verset 10, « Car la ville forte est solitaire. La ville forte, c'est Jérusalem, est solitaire. C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. » C'est ça que dit Ésaïe au chapitre 27. « Jérusalem va devenir comme un désert. » Ou au chapitre 32, verset 14, « La ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne pour le bonheur des ânes sauvages et la pâture des troupeaux. » C'est ça qu'Isaïe a annoncé à plusieurs fois, que Jérusalem deviendra comme un désert, un lieu inhabitable, triste, désolé. Et on en connaît la raison. C'était les péchés des habitants de Jérusalem, les péchés du peuple de Dieu. Mais juste avant notre texte, juste avant les versets 3 jusqu'à 5, le prophète dit que Dieu va chancer, il va chancer cette situation déplorable. La ville détruite peut attendre la bonne nouvelle. Ton combat est terminé. Ta faute est pardonnée. Tu as reçu de la main de l'Éternel au double de tous tes péchés. Ça veut dire que c'est très sûr que cette, la punition s'est passée. En réalité, Dieu ne donne pas le double des péchés, il est honnête. Mais s'il dit lui-même, c'est le double de tous tes péchés que tu as reçus, ça veut dire très clairement que c'est évident que maintenant ça suffit. C'est la fin de la punition. Donc alors les exilés, ces habitants de Jérusalem à Babylone, ils peuvent attendre le moment du retour. Le moment du retour à Jérusalem, parce que leurs péchés sont pardonnés. Ils peuvent rentrer chez eux. Donc à ce moment, il y a une voix qui crie. Une voix qui crie. Alors il serait logique, selon notre logique, notre raisonnement, que cette voix dise aux exilés, « Faites vos valises, mettez-vous en route, quittez Babylone, retournez vers Jérusalem. L'Éternel lui-même, il tracera le chemin pour vous. » En fait, le prophète va dire cela. Il va dire cela, mais il va le dire au chapitre 49 seulement. Au verset 11, là, il dit que Dieu préparera lui-même la route pour les exilés. Ils n'auront pas de faim, ils n'auront pas de soif. Ces exilés, ces prisonniers qui retournent vers Jérusalem, Dieu leur annonce, « Je transformerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront rehaussées pour eux, pour qu'ils puissent revenir à Jérusalem, rentrer chez eux. » Mais ici, en Isaïe 40, il ne le dit pas encore. Il cite une voix qui dit qu'un chemin doit être tracé. Mais il ne s'agit pas tellement du chemin du peuple de Dieu, le chemin que les exilés vont prendre pour retourner à Jérusalem. Il s'agit plutôt d'un chemin, une route pour Dieu lui-même, pour l'Éternel. Préparer la route de l'Éternel, le chemin de l'Éternel, une route pour notre Dieu. Donc c'est le Dieu d'Israël, Dieu lui-même, qui veut prendre ce chemin. Il veut prendre cette route à travers du désert. Il veut passer par cette route. Parce que là, sur cette route, au désert, c'est là qu'il veut montrer sa gloire, sa majesté. Au moment auquel le texte s'adresse, la ville de Jérusalem est une ruine. Le peuple de Dieu vit comme un désert, comme dans un désert. Bientôt, tout cela sera fini. Dieu a dit, la ville a apporté son jugement. Les péchés sont pardonnés. Mais avant que le retour, avant que la reconstruction, la restauration de la ville se réalise, il faut d'abord ouvrir le chemin pour Dieu lui-même, afin qu'il puisse lui-même venir vers son peuple, là où ils vivent, dans le désert, ce lieu où on ne peut guère vivre. Avant que la restauration de Jérusalem ne puisse se réaliser, il faut d'abord qu'il vienne lui-même, qu'il vienne dans sa gloire, dans sa majesté. D'abord son avènement, ensuite la restauration. Au Proche-Orient, les routes du désert ne restaient pas longtemps en bonne condition. Il fallait faire de l'entretien, régulièrement. Sinon, on ne pouvait plus prendre la route. La route serait bloquée par le sable, par des cailloux, par des rochers. Alors, s'il y avait une armée qui voulait passer par cette route-là, c'était guère possible. C'était impossible, en tout cas, de marcher vite sur une telle route, comme auparavant sur les routes nationales préparées par Napoléon avec les platanes. C'était très confortable. Mais les routes du désert de cette époque-là n'étaient pas comme ça. Et évidemment, une telle route n'était pas appropriée pour un roi. Si le roi voulait voyager par le désert avec son cortège, avec toute la cour, sur un chemin comme ça, bloqué par le sable, les cailloux et les rochers, ce n'était pas possible. Donc c'est pourquoi il y avait des cantonniers, des paviers qui allaient devant le roi pour préparer la route. Avant l'arrivée du roi, on pouvait entendre cet ordre-ci. Préparez la route, au boulot, enlevez les obstacles, mettez les blocs de pierre à côté, remplissez les trous, nivelez les bosses, rectifiez les virages, bref, redessez la route, de sorte que le roi puisse voyager comme il faut, vite, vite et en tout confort. Alors le prophète, il dit aux habitants de Jérusalem en exil, cet ordre se fait entendre, maintenant. Vous pouvez l'écouter. Et le roi qui vient, le roi pour qui il faut préparer la route, c'est l'Éternel, c'est votre Dieu lui-même. Il veut passer par ce désert où vous habitez. J'entends déjà la voix qui annonce son arrivée. Alors c'est évident, c'est certain qu'il va venir. Son avènement est annoncé, il faut faire la préparation. Mais c'est aussi évident qu'il n'y a pas mal de choses à faire. Il faut préparer la route. Mais qui doivent faire cela? Qui sont, dans ce contexte, les cantonniers, les constructeurs de route? Et si le dessert est le symbole des circonstances bien tristes des habitants de Jérusalem, qu'est-ce qu'il faut éloigner? Quels sont les blocs de pierre? Quels sont les trous? Je vais essayer d'y répondre un peu plus tard. D'abord, verset 4. Le verset 4 dit « Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. » Cela se comprend plus ou moins, je crois. Une route qui passe par un terrain plat, sans montagne, sans colline, c'est plus confortable qu'une route à travers les montagnes. Il faut changer les vitesses, ou beaucoup de virages, il faut freiner, etc. Ou peut-être quelqu'un a peur dans la voiture, une route sur un terrain plat, c'est plus confortable. Mais pourquoi est-ce que le prophète dit qu'il faut élever toutes les vallées, qu'il faut abaisser toutes les montagnes et toutes les collines? Ça semble être un peu exagéré. Est-ce que ça ne va pas trop loin? Pourquoi élever, éliminer toutes les montagnes, toutes les collines? On peut préparer une bonne route en faisant un peu de nivellation, en éliminant un peu de virage. Mais pourquoi toutes les montagnes, toutes les collines? Pourquoi est-ce que le grand roi, le Saint-Dieu, donne-t-il cet ordre? Je crois que le prophète nous donne un indice dans ce qui suit, dans le verset 4, la deuxième partie. Et dans la traduction de la Colombe, c'est « Que le relief se change en terrain plat et les escarpements en vallon ». Le prophète, il fait un jeu de mots, mais des jeux de mots, c'est presque impossible de les traduire. En français ou en anglais, en hollandais, ça ne va pas. On peut le voir un petit peu dans une autre traduction que j'ai consultée, Louis II, on en peut laisser, 21. Là, et dans le Nouveau Testament aussi, dans la citation du texte par Luc, en Luc 3, il y a le mot « tortueux ». Tortueux, non, tortueux en français, ça peut avoir deux sens. Le sens littéral, avec beaucoup de virages, etc. Mais aussi tortueux, quelqu'un qui fait des mensonges, de la déception. C'est pas vrai ça, c'est le dico qui m'a appris ça. Voilà. Voilà. Donc là, il y a deux sens. Il y a à peu près la même chose dans ces deux mots hébraïques, traduits par relief et escarpement, dans la version de la colombe. Il y a un jeu de mots. Deux sens au même moment. Un peu d'ambiguïté consciente, exprès. Le mot traduit par relief ressemble beaucoup au mot trompeur. En fait, il y a la même racine que dans le nom de Jacob, qui a trompé son frère. Un peu comme ça, je ne vais pas essayer. Ça ressemble beaucoup au mot trompeur. Et le mot traduit par escarpement, si l'on écoute bien, on peut aussi entendre quelque chose comme conspiration, intrigue. Donc ceux qui écoutent bien, ils écoutent, ils comprennent un sens littéral, escarpement, relief, etc. Mais ils ont aussi l'idée de tromperie, conspiration, intrigue. Et donc notre texte ne parle pas seulement d'obstacles sur la route, d'obstacles littéraux. Il parle aussi de tromperie et d'intrigue. Il faut élever ça, éliminer la tromperie, les intrigues. Non. Si on s'en rend compte, on est dans la bonne position, je crois, pour mieux comprendre aussi cet ordre qui semble être un peu bizarre au début du verset. Que toute vallée soit élevée, toute montagne et toute colline soit abaissée. Ça semble mettre fin à l'existence des montagnes et collines. Oui, mais au chapitre 2, Isaïe, il a déjà fait mention des montagnes et des collines. Et là, les montagnes et les collines sont des symboles aussi, des symboles de l'orgueil, symboles de la présomption. Bien sûr, l'Éternel ne déteste pas les montagnes et les collines. C'est lui-même qui les a créées, les montagnes et les collines. Il n'y a aucune raison pourquoi qu'il préfère la Camargue ou les Podères hollandais aux Alpes, n'est-ce pas? Mais ce qui déteste notre Dieu et qu'il faut éliminer, c'est l'orgueil, c'est la présomption. Ce qu'il veut abattre, ce sont toutes les choses qui, comme de hautes montagnes, s'élèvent entre nous et sa gloire. Toutes les choses qui bloquent la vue. Qui bloquent la vue, notre vue, afin qu'on puisse plus voir la gloire de Dieu. Toutes choses qui nous rend aveugles à la révélation de sa majesté, ou qui cache sa majesté de nos yeux. Et cet orgueil était bien une des raisons pourquoi Jérusalem était prise et détruite. C'était une des causes de l'exil. On trouve souvent dans la prophétie d'Isaïe ce thème, ce motif de l'orgueil. Et maintenant, le prophète annonce que la ville est graciée de sa faute, c'est le pardon. Mais évidemment, la restauration de la ville n'a pas de sens si les péchés restent, si les péchés peuvent se répéter. Donc il faut la disparition de ces péchés, les péchés qui ont produit la destruction. Tous les péchés qui contribuent à l'arrogance des hommes. Tous ces péchés doivent être écartés lorsque Dieu vient à son peuple dans le désert. C'est ainsi parle le Très-Haut. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Ésaïe 57. Et c'est exactement cela qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc. Je le retrouve dans les paroles de Jean-Baptiste. Lui, c'était celui qui a préparé le chemin de Jésus-Christ. La route pour le Seigneur, pour Dieu lui-même, dans son Fils, était préparée par Jean-Baptiste. C'est lui qui a égalisé les routes dégradées. Il a nivelé les montagnes et les collines, comme le prophète a dit. Mais comment est-ce qu'il a fait ça, Jean-Baptiste? On l'a lu. Il a dit aux Juifs, « Vous êtes des descendants d'Abraham, vous êtes circoncis. » Oh, c'est bon. Mais cela ne vous aiderait point si vous refusez de rompre avec vos péchés. Et les Juifs, ils avaient le droit d'être fiers de leur descendance, je crois. Ils étaient des descendants d'Abraham. C'était un privilège que Dieu leur avait donné. Mais jamais cette descendance ne pouvait devenir une montagne. Une montagne d'orgueil. Une montagne qui s'élèverait entre Dieu et eux. Jamais cette descendance ne pouvait masquer le fait qu'eux aussi devaient se rendre à Jésus-Christ. Parce que pour lui, les Juifs et tous les païens, tous les hommes sont égaux. Tous, nous tous, sommes des pécheurs. C'est pourquoi la règle du royaume de Dieu, c'est « quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc pour ces Juifs de l'époque de Jean-Baptiste, leur descendance d'Abraham pouvait être une telle montagne qu'il fallait abaisser. C'était quelque chose de bon, mais il y avait un risque que de devenir une montagne qui bloque la vue